C'est un programme en rediffusion sur VOA Afrique.
VOA Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington.
Bonsoir, 19h30, en temps universel, Abdelrahman Dia avec vous. Heureux de vous présenter cette édition du vendredi 29 juillet 2022. Voici les titres. Les électeurs sénégalais s'apprêtent à élire ce dimanche les 165 députés de leur parlement. Les 8 coalitions en lice terminent leur campagne ce vendredi. Changement à la tête de l'armée au Nigeria, en proie à l'insécurité généralisée. Affaire dite des biens mal acquis, 5 enfants du défunt président gabonais Omar Bongo viennent allonger la liste des personnes mises en examen à Paris. L'État américain du Kentucky endeuillé par des inondations qui ont fait au moins 16 morts. Ne ratez pas les informations sur l'actualité économique et les sports, mais tout d'abord le journal. On démarre par la Guinée où de nouveaux heurts entre des protestataires et les forces de l'ordre ont eu lieu ce vendredi à Conakry malgré l'interdiction des manifestations par la junte alors que la CEDEAO affirme avoir convaincu les militaires de réduire la transition de 3 à 2 ans. Ces manifestations, entamées hier jeudi, sont organisées à l'appel du Front National pour la Défense de la Constitution, une coalition de partis, de syndicats et d'organisations de la société civile qui dénonce la gestion unilatérale de la transition par la junte. La Cour suprême du Mali a lancé un mandat d'arrêt international contre 4 ex-responsables, dont 3 anciens ministres, pour crimes de faux, usage de faux et atteinte aux biens publics dans une affaire d'achat d'équipements militaires en 2015 sous la présidence de Feu Ibrahim Boubacar Keïta. Les 4 ex-responsables visés sont 2 ministres des Finances au moment des faits présumés, Boubou Cissé et Mamadou Igor Diarra, leurs collègues de la Défense pendant cette période, Thiémont Hubert Koulibaly et l'ex-directeur de la Banque malienne de solidarité Babaliba, indique un communiqué du procureur général de la Cour suprême. Les autorités maliennes avaient attribué ce marché de 60 millions de dollars à la société sud-africaine Paramount pour l'achat de véhicules blindés dont une partie n'a pas été livrée, a indiqué ce vendredi une source judiciaire à l'AFP. Les Sénégalais sont appelés aux urnes dimanche pour choisir leurs 165 députés, dont 15 représentants de la diaspora. Les candidats de 8 coalitions ont sillonné le pays pour tenter de convaincre leurs électeurs. Le point avec notre correspondant à Dakar, Seydina Abagay.
Cette année, les coalitions ont privilégié les caravanes à travers le Sénégal et les visites de proximité au détriment des meetings. Et il faut dire que même s'ils sont 8 coalitions à être en lice, 3 d'entre elles sont parvenues à sortir du lot. Il s'agit d'abord de l'intercoalition Yewi Askanwi Wallou Sénégal. Ainsi, les leaders de l'intercoalition Yewi Wallou appellent les Sénégalais à voter pour eux et surtout à les aider à freiner l'ascension de différents leaders du parti au pouvoir dans certaines zones du pays qu'ils avaient perdues aux dernières élections locales. Du côté de la coalition Benno Bokk Yakar au pouvoir, la première idée est de freiner l'ascension aussi de la coalition Yewi Askanwi, de dire aux Sénégalais qu'il faut donner au président Sall une majorité parlementaire lors de cette 14e législature pour lui permettre de terminer les projets du plan Sénégal émergent. La troisième coalition à s'être mise en exergue est la coalition Art Sénégal, Seydina Abagay pour VOA Afrique, Dakar.
Le Nigeria procède à des changements à la tête de son appareil militaire au moment où le gouvernement est critiqué de toutes parts pour son incapacité à endiguer l'insécurité généralisée. Le point avec Nani Talani.
Le changement concerne surtout les commandements des bataillons à Lagos, la capitale économique, à Enugu dans le sud-ouest et à Kaduna dans le nord-ouest. Le chef d'état-major de l'armée, le lieutenant-général Farouk Yahya, a ordonné cette restructuration dans le but de repositionner l'armée pour qu'elle soit plus efficace et compétente sur le plan opérationnel. Les forces nigérianes sont mobilisées sur plusieurs fronts. Elles luttent contre une insurrection djihadiste dans le nord-est, affrontent des bandes criminelles dans le nord-ouest et font face à un mouvement séparatiste dans le sud-est. Les députés de l'opposition ont menacé cette semaine de destituer le président Muhammadu Buhari, ancien général de l'armée, à cause de l'insurrection récurrente. ce mois-ci, l'attaque sophistiquée d'une prison non loin d'Abuja et près de l'aéroport international a été revendiquée par le groupe État islamique. Un convoi du personnel de sécurité du président Muhammadu Buhari a subi une embuscade et les enlèvements contre rançon sont devenus récurrents dans le pays le plus peuplé d'Afrique.
En France, dans le cadre du dossier des biens mal acquis, 5 enfants de l'ancien président gabonais ont été mis en examen. La justice française les soupçonne d'avoir sciemment bénéficié d'un patrimoine immobilier frauduleusement assemblé par leur père Omar Bongo. Le point avec Claire Morin-Jubourg.
Cette nouvelle série de mises en examen porte à au moins 9 le nombre d'enfants d'Omar Bongo poursuivis dans cette information judiciaire. Pascaline Bongo, 66 ans, ex-directrice de cabinet de son père. Omar Denis Junior Bongo, également petit-fils du président congolais Denis Sassou Nguesso. Jeanne et Joseph Matoua ont tous été mis en examen entre juin et juillet. Ils sont poursuivis pour recel de détournement de fonds publics, corruption active et passive, blanchiment et abus de biens sociaux et d'avoir bénéficié du patrimoine immobilier évalué à plus de 85 millions d'euros qu'Omar Bongo aurait accumulé de 1967 jusqu'à sa mort en 2009. Pascaline Bongo a déclaré posséder plusieurs appartements à Paris acquis par son père. Selon un arrêt de la Cour d'appel de Paris, la fortune de la famille Bongo provient de l'argent issu de détournements de fonds publics et de pots de vin provenant des sociétés pétrolières comme Elf Aquitaine, aujourd'hui Total Énergie.
Des miliciens du groupe islamiste Shabab ont attaqué ce vendredi une base militaire située à la frontière entre la Somalie et l'Éthiopie, déclenchant des combats qui ont fait un nombre encore indéterminé de victimes. C'est ce qu'ont indiqué des responsables sécuritaires. Il s'agit de la dernière attaque dans la région menée par le groupe basé en Somalie en quelques semaines, suscitant des inquiétudes quant à la stabilité dans cette région frontalière. La Commission pour la cohésion et l'intégration nationale du Kenya a fixé ce vendredi un ultimatum de 7 jours à Facebook pour supprimer des propos haineux sur sa plateforme, sous peine d'être suspendu dans le pays en pleine campagne électorale pour la présidentielle du 9 août. La NCIC, qui est chargée, entre autres, de traquer toute parole ou écrit susceptible d'inciter à la haine et à la violence, a déclaré avoir envoyé des recommandations à la société mère de Facebook, donc Meta, à la suite d'un rapport selon lequel elle aurait autorisé plus d'une douzaine de messages politiques haineux. Et puis le chef de la diplomatie américaine, Anthony Blinken, se rendra le mois prochain en Afrique du Sud, en République démocratique du Congo et au Rwanda. Anthony Blinken, donc, c'est une annonce qui a été faite ce vendredi par le département d'État alors que Washington intensifie sa diplomatie en Afrique pour contrer une offensive russe, une offensive de charme russe.
VOA Afrique à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Ici aux États-Unis, le bilan des inondations dévastatrices dans le Kentucky est passé à au moins 16 morts, a annoncé le gouverneur de cet État. Les opérations de sauvetage se poursuivent. On fait le point avec Mohamed Oumfa.
C'est épouvantable. Le nombre d'habitants du Kentucky que nous avons perdu devrait encore au moins doubler, a déclaré le gouverneur Andy Beshear à une chaîne de télévision américaine. Tous les services de secours, dont la garde nationale, la police et des renforts des États voisins, sont mobilisés pour venir en aide aux victimes des pires inondations jamais vécues par le Kentucky, a-t-il précisé. Selon lui, une cinquantaine de sauvetages aériens et des centaines de sauvetages par bateau ont déjà eu lieu. Mais il y a tellement d'eau, les courants sont tellement forts que nous n'arrivons pas à atteindre tout le monde, a ajouté l'élu démocrate qui espère voir le gouvernement fédéral prononcer l'état de catastrophe naturelle qui permet de bénéficier des fonds fédéraux. Des pluies torrentielles se sont abattues sur l'est de cet état rural, obligeant les habitants à monter sur les toits de maisons en attendant les secours. Les pluies doivent continuer jusqu'à ce soir et l'alerte inondation reste en vigueur.
En Iran également, des inondations ont causé la mort d'au moins 24 personnes, tandis que 19 sont portées disparues. C'est à la suite de fortes pluies qui ont touché depuis mercredi des régions près de la capitale Téhéran. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky s'est rendu aujourd'hui dans le port de Tchernomorsk dans le sud du pays pour superviser un premier chargement de céréales au terme d'un accord trouvé le 22 juillet avec la Russie. Il a précisé qu'il s'agissait d'un navire turc. La juge supervisant la bataille judiciaire entre Twitter et Elon Musk a fixé au 17 octobre le début du procès devant forcer ou non l'entrepreneur à racheter le réseau social. Twitter avait déposé plainte le 12 juillet devant un tribunal du Delaware pour contraindre l'homme le plus riche au monde à honorer son engagement pris fin avril de l'acquérir pour quelque 44 milliards de dollars. Voilà pour le journal. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique et voafrique.com. L'actualité économique en Afrique, on en parle dans la Minute Éco, présentée ce soir par Nanit Talani.
En Côte d'Ivoire, le Conseil du café et du cacao a conclu la vente des 1,52 million de tonnes de contrats d'exportation de cacao pour la prochaine récolte de la campagne 2022-2023, ont déclaré des sources à Reuters. C'est la première fois que le Conseil vend tous les contrats d'exportation avant la récolte principale qui s'étend d'octobre à mars. Au Congo, les acteurs des transports portuaires, terrestres et aériens viennent de se réunir à Brazzaville pour trouver des solutions à la maîtrise des prix alimentaires. Par exemple, pour acheminer un conteneur du port de Pointe-Noire à Brazzaville, il faut débourser plus de 260 000 francs CFA, ce qui se répercute sur les prix de vente sur le marché et le panier de la ménagère. Pour terminer, aux États-Unis, la Chambre des représentants a approuvé jeudi un projet de loi destiné à subventionner l'industrie des semi-conducteurs avec l'espoir de permettre aux entreprises américaines de rivaliser avec la Chine et d'atténuer la pénurie récurrente de puces qui a affecté nombre de secteurs. Par ailleurs, la Chambre autorise la location de plus de 170 milliards de dollars sur 5 ans pour aider la recherche scientifique américaine.
À présent, la page des sports avec Yacouba Ouédraogo. Bonsoir Yacouba.
Bonsoir Abdou, bonsoir à tous.
Pas de triplé pour le Wydad de Casablanca.
Oui, après avoir remporté la Ligue des champions africaines et le championnat marocain, le Wydad a perdu la finale de la Coupe du Trône face à la Renaissance sportive de Berkane. Au tir au but, 2 tirs réussis contre 3. Le score était de 0-0 à l'issue du temps réglementaire et des prolongations. Cette finale a surtout été marquée par le vilain geste de l'entraîneur du WAC, Walid Regragui. Hors de lui à la 120e minute, le technicien marocain a jeté une bouteille d'eau sur un joueur de Berkane qui avait lancé une contre-attaque. Il a écopé d'un carton rouge. C'est le deuxième trophée de la Coupe du Trône pour la Renaissance sportive de Berkane. Vainqueur en 2018, son coach congolais Florent Ibengué réussit ainsi le doublé Coupe du Trône, Coupe de la Confédération.
Sadio Mané a l'occasion de décrocher demain samedi son premier trophée avec le Bayern Munich.
L'international sénégalais nouvellement transféré de Liverpool au Bayern Munich affronte ce samedi le RB Leipzig en Supercoupe d'Allemagne. On aura un duel dans ce match. D'un côté, Christopher Nkunku, le meilleur joueur du championnat allemand de la saison écoulée, et de l'autre, le joueur africain de l'année. Pour ce premier titre de la saison, l'affiche de la Supercoupe a souvent proposé un duel entre le Bayern et le Borussia Dortmund. 8 fois sur les 10 dernières éditions. Cette année, c'est une confrontation inédite qui est proposée entre les Munichois, vainqueurs d'un 10e titre national consécutif, et le RB Leipzig, lauréat de son premier trophée majeur, la Coupe d'Allemagne, il y a 2 mois.
L'Éthiopie honore ses athlètes pour leur performance au championnat du monde d'athlétisme.
Oui, les autorités éthiopiennes ont célébré les performances de l'équipe nationale d'athlétisme au cours d'une cérémonie spéciale en présence de la présidente du pays, Salewark Zewde. L'Éthiopie s'est classée 2e au tableau général des médailles avec 10 récompenses lors du 8e championnat mondial d'athlétisme d'Eugene dans l'Oregon, ici aux États-Unis. Juste derrière le pays hôte, les athlètes originaires de la région du Tigré ont remporté 3 des 4 médailles d'or et 1 médaille d'argent. Cette région est coupée du reste de l'Éthiopie en raison d'un conflit armé, d'où cette doléance de la présidente de la Fédération éthiopienne d'athlétisme. Deratou Toulou.
Les athlètes tigréens n'ont toujours pas eu l'occasion de voir leur famille. J'espère que notre présidente et notre gouvernement résoudront ce problème, car cela permettra à notre joie d'être complète et de nous préparer à notre prochaine tâche. Nous avons des athlètes au Tigré, mais ils ne sont pas venus parce que bloqués sur place. Certains d'entre eux devraient venir ici et d'autres devraient commencer à travailler là-bas.
Deratou Toulou, présidente de la Fédération éthiopienne d'athlétisme.
Merci Yacouba.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique et voaafrique.com. Abdourahmane Dia, toujours en votre compagnie. À présent, les dossiers du jour. Au Sénégal, des centaines de jeunes ont fait du digital leur cœur de métier. Parmi eux, certains émergent en devenant des influenceurs très suivis grâce au contenu qu'ils proposent et mettent souvent leur notoriété au service des entreprises, des institutions ou des politiciens. Mais pour cette campagne électorale qui s'achève ce vendredi, jugée cruciale pour la démocratie sénégalaise, beaucoup d'entre eux ont décidé de rester neutres. De notre correspondant à Dakar, Seydina Abagay.
La campagne électorale pour les législatives, c'est sur le terrain, mais aussi sur les réseaux sociaux. Durant cette période, toutes les coalitions cherchent des relais pour que leur opinion soit mieux distillée sur les plateformes digitales. Une stratégie compréhensible, mais à laquelle Ao Claudine n'adhère pas. Pour celle qui est surnommée la Miss Digitale du Sénégal, il est hors de question d'utiliser sa communauté virtuelle pour battre campagne.
Alors là, pas du tout. Franchement, que ce soit même les présidentielles, jamais je vais parler à ma communauté pour les influencer à voter pour telle ou telle personne. Tout simplement parce que c'est pas mon rôle et je ne suis pas là pour ça. Un créateur de contenu, c'est quelqu'un qui a un domaine bien précis et qui parle en fonction de ça pour inspirer les gens, pour les éduquer, les apprendre des trucs.
Bati Drizi est très aimé sur Facebook et Twitter depuis des années. Ses posts sont très suivis et partagés. Même s'il avoue avoir une fois travaillé avec des politiques, Drizi ne compte pas le refaire pour éviter de diviser sa communauté.
Bon, Diouf Sarr a invité on le nous.
J'ai travaillé avec l'ancien ministre de la Santé, Abdoulaye Diouf Sarr, lors des élections locales à travers une séance de questions-réponses sur son programme pour la ville de Dakar. Mais je ne vais plus le faire. Le pourquoi est simple, car ce genre de collaboration me fait plus de mal que de bien. Cela divise ma communauté. Il y a trop de polémiques et de problèmes qui s'en suivent parce que je rassemble des gens de tous bords politiques. J'ai donc compris que la neutralité est la meilleure option.
Et puis aussi,
Mamba Lombo est le roi du troll. Ses productions parodiant les hommes politiques sénégalais font sa renommée. Un exercice comique pas facile à réaliser selon lui, car devant prendre en compte beaucoup de critères.
Pour mes trolls, je me base sur les portraits physiques des différents personnages. J'essaie avec mon maximum de respecter le caractère des personnages, leur manière de parler, le tic, les habitudes. Les expressions qu'ils ont l'habitude d'utiliser pouvaient produire avec quasi exactitude mes personnages que je dois utiliser.
Même s'il ne milite pour aucun parti politique, Drizi incite tout de même les jeunes à aller voter en usant de son art.
Moi, je fais de mon mieux quand même pour inciter les gars à aller voter parce que c'est un devoir citoyen très important. C'est l'avenir du citoyen, de la démocratie et du pays qui sont en jeu, donc c'est très important. Mais tout ça, je le fais avec humour pour décrisper l'atmosphère et motiver mes abonnés sans les frustrer.
Laissés à rade à un certain moment par bon nombre de politiques, les réseaux sociaux sont maintenant l'autre champ de bataille. Chacun y va de son astuce pour attirer le plus d'internautes afin de les convaincre et les convertir en des voix favorables dans les urnes. Seydina Abagay à Dakar pour VOA Afrique.
FM 102, c'est VOA Afrique à Dakar au Sénégal, 24h sur 24.
En Côte d'Ivoire, des jeunes utilisent la transformation digitale pour proposer des solutions locales à partir de la 5G pour améliorer les conditions de vie des populations à travers des start-up. Un concours lancé récemment par un opérateur économique dénommé 5G Challenge Hackathon a permis d'identifier 4 projets remarqués et remarquables sur 144. Le reportage de notre correspondante à Abidjan, Delphine Boheus.
Développement technologique et solutions innovantes. 4 meilleurs projets conçus par des jeunes Ivoiriens ont été retenus à l'issue d'un concours numérique. D'abord, Hack Reality, un projet conçu à l'aide d'un robot pour résoudre la question de la mobilité réduite des personnes handicapées. Noé Amani Kwaku en dit plus.
Désormais, avec le robot, la personne handicapée peut récupérer des objets par contrôle manuel ou vocal du robot, et ce, en langue locale. Elle peut explorer son environnement sans se déplacer avec le robot et même surveiller ses prises de médicaments. Pour mener à bien ses tâches, le robot a besoin d'un modèle de reconnaissance d'objets, d'un modèle de détection des situations à risque et d'un traitement de langage naturel.
Lorsqu'un robot doit aider une personne à mobilité réduite, la vitesse d'exécution des tâches est essentielle. Mais cette difficulté est très vite surmontée et selon le concepteur Noé Amani Kwaku.
Le problème technique qui se pose, c'est que la transmission des données via Internet est un peu lente et le temps de latence est très très important avec la 4G. C'est ainsi que nous avons opté d'implémenter la 5G et avec la 5G, nous avons un temps de latence qui est quasi nul, ce qui rend plus fluide notre robot, plus amélioré et utile à la population.
James Ori est le concepteur du projet appelé The Process de Benjerville avec sa solution Tour CI. C'est une application mobile qui facilite la découverte des lieux touristiques grâce à la réalité augmentée.
Notre projet a pour but de révolutionner le tourisme en Côte d'Ivoire en alliant la fois 5G et réalité augmentée. Notre application permettra à tous les utilisateurs de pouvoir découvrir la Côte d'Ivoire et ses sites touristiques en réalité augmentée, en réalité virtuelle, c'est-à-dire de pouvoir voir ces endroits-là comme s'ils y étaient sans forcément aller là-bas physiquement.
Mariam Traoré, elle est responsable du projet Change World du Grand Bassam à travers sa solution Ville Connectée, V-Connect. Elle a créé avec des drones connectés un système pour faciliter l'alerte lors des sinistres.
Un système de signalisation de problèmes en série dans la ville ou commune, tels que accidents, routes dégradées, inondations, insalubrité, afin d'améliorer les conditions de vie de la population pour réduire au maximum les problèmes qui y sont.
Enfin, Roland Dogo est l'inventeur du projet Éleveur 4.0 de Dabou pour sa couveuse connectée. Il estime que c'est une énergie nouvelle pour la ferme de qualité.
Et ce projet-là permet de mettre également en relation tous les éleveurs qui ont vu notre projet. Nous allons développer le projet davantage car nous pouvons créer de l'emploi en Côte d'Ivoire avec ce projet. C'est un projet qui permettra également de pouvoir accroître la production en volaille en Côte d'Ivoire.
Les 4 équipes qualifiées ont reçu chacune un chèque d'un montant de 1 million de francs CFA pour continuer à travailler sur leur prototype avec des coachs qui sont mis à leur disposition. Et la finale est prévue en octobre prochain. Delphine Bouise, Abidjan, VOA Afrique.
Abidjan, Côte d'Ivoire, 99 FM, VOA Afrique, 24h sur 24.
Au Togo, le slam se conjugue au féminin grâce à une nouvelle génération de femmes artistes engagées, dont la jeune slameuse Safir Kay, la vingtaine. Ses textes dénoncent les injustices que vivent les femmes. Pour marquer son engagement, la jeune artiste a lancé le concept Femislam, ou le slam au féminin. Amen Assigno.
Quel honneur de savoir que la nature est une femme.
Regard malicieux, sourire au coin des lèvres. Dans sa tenue traditionnelle, Safir P n'a aucun mal à retenir l'attention du public lors de ses prestations sur scène. Mais sous cette apparence simple se cache une femme de poigne, une femme qui ne mâche pas ses mots. Engagée pour la cause féminine, la slameuse togolaise utilise son art depuis 4 ans pour dénoncer les injustices que subissent les femmes. Comme elle le raconte, sa rencontre avec le slam a été la révélation de son talent.
Bien avant le slam, inspirée, je faisais coucher des mots, des textes par écrit, avec une forte envie d'en faire de la poésie. Une soirée comme par hasard, je suis tombée sur une émission radio où des slameurs disaient leurs textes. Waouh, la beauté de la chose. Je suis tombée fortement amoureuse du slam et m'y investie, une lettre après l'autre, poursuivant mon unique objectif, penser nos mots. Le slam m'a juste courtisé, quand je tiens encore frappé de cécité, mais les moyens pour me séduire ne lui ont pas manqué, et voilà où nous en sommes.
De son vrai nom, Missy Agbeto Maoli, sa fierté est une amoureuse des mots, convaincue que les rimes, les vers, peuvent être des armes idéales pour combattre les mots qui minent nos sociétés. Son nom de scène, Saphir P, qui veut dire « la pierre de saphir » en français, elle l'a choisi tout simplement pour dire qu'elle est une femme de valeur. Une manière aussi à elle de dire que chaque femme, prise individuellement, est précieuse. Avec son concept Femislam, qui vise à donner la parole à la femme pour parler de la condition des femmes en Afrique, la jeune artiste ouvre le champ à la féminisation du slam au Togo.
Femislam, c'est tout simplement du slam au féminin, autrement des femmes claquant des mots contre leurs mots. Le message phare pour moi serait à l'évidence l'importance à accorder à la femme. Non seulement la femme peut quelque chose, mais la femme est elle-même quelque chose. Le ciment pour construire ce monde, notre monde. Respecter une autre femme, c'est d'abord respecter sa propre mère. Donc bref, respectons la femme.
Sa fierté façonne son imaginaire artistique dans la langue évée, sa langue maternelle, langue dans laquelle elle slame pour se faire entendre, marquer sa singularité tout en mettant un caractère identitaire à chacun de ses textes. Mais elle utilise d'autres langues comme le français, l'anglais ou encore l'allemand dans ses créations.
Nyavamea de Baudona, Koko Povidua, Akmanya Otana. Ahablibo, apokokono wala, poda ndodo nyada tu wala, bo avanami godo, safir.
Amena Sion, Lomé, pour la VOA.
Une famille africaine-américaine s'est vue restituer l'acte de propriété d'un terrain en bordure de mer exproprié par les autorités locales il y a près d'un siècle. Cela pourrait être le premier cas du genre ici aux États-Unis. Le reportage de Mike O'Sullivan à Los Angeles et c'est un récit de Thierry Kaoré.
Corriger une injustice qui remonte aux années 1920. La famille Bruce a récupéré la propriété en bordure de mer saisie à Charles et Willa Bruce il y a un siècle. Le terrain a été pris par la ville majoritairement blanche de Manhattan Beach pour être utilisé comme parc public à travers un processus légal appelé domaine éminent, dans lequel la propriété privée peut être prise pour un usage public avec un paiement à la juste valeur marchande. Les Bruce ont reçu 14 500 dollars pour un terrain qui, selon eux, valait plus à l'époque et vaut des millions de dollars aujourd'hui. C'était l'un des nombreux cas de communautés blanches utilisant la loi pour retirer des biens aux minorités, selon un descendant de la famille qui dit que d'autres personnes avec des histoires similaires se mobilisent. Anthony Bruce est l'un des héritiers.
Ils comprennent que cela demande beaucoup de courage, beaucoup de travail acharné. Vous devez avoir les pieds solides et ne jamais baisser les bras.
Les protestations et l'aide du comté de Los Angeles, qui a acquis la propriété en 1995, ont fait la différence dans cette affaire. Il a fallu aussi un bon avocat pour surmonter le défi judiciaire posé par un citoyen privé pour que le comté accepte de restituer le terrain. George Fabere, avocat de la famille Bruce.
D'abord, j'ai pensé, c'est spectaculaire et c'est génial. Puis je me suis dit, il y aura beaucoup de gens qui ne voudront pas voir cette propriété restituée.
Certains s'inquiétaient, pensant à un procès perdu d'avance, car l'expropriation a été parfaitement légale. Le juge n'était pas convaincu. L'avocat a montré des preuves historiques que Charles et Willa Bruce ont été ciblés par des responsables blancs hostiles. Stephen Bradford, sénateur de Californie, a même rédigé un projet de loi pour aider les héritiers Bruce à récupérer la terre.
Les Noirs ont été toujours privés par des restrictions raciales ou religieuses dans les contrats et tous les autres moyens légaux empêchant les Africains-Américains d'avoir des biens dans ce pays.
L'activiste Kevin Ward est fondatrice de l'organisation Where is My Land qui a mis au jour cette affaire.
Rendre la terre volée. J'ai près de 400 cas et je suis sûr qu'il y en a bien d'autres.
Le comté de Los Angeles dispose d'une installation de surveillance sur la propriété en bordure de mer. Le terrain sera désormais loué par le comté pour les deux prochaines années, avec la possibilité de l'acheter jusqu'à 20 millions de dollars. Pour la famille Bruce, c'est un règlement historique d'un litige à caractère racial.
Salut les amis, ici Roger Montou de VOA Afrique. Téléchargez et partagez l'application RM Show VOA. Vous allez pouvoir nous suivre en direct sans problème. Vous serez aussi en mesure de suivre des émissions manquées et nous appeler, participer en live, en direct sur notre application RM Show VOA. Vous pouvez trouver l'application dans votre Google Play. Cherchez tout simplement RM Show VOA. Merci infiniment de rester connecté avec RM Show sur l'application Google Play RM Show VOA. Téléchargez et partagez l'application pour rester scotché à nous suivre chaque jour entre 20h et 21h temps universel. Rappelez-vous que RM Show, c'est chaque jour à 20h temps universel sur VOA Afrique. Et je vous dis comme d'hab, God bless, peace Africa.
C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. À la mise en onde de Michel Joseph, présentation Abdourahmane Dia. Principalement d'aujourd'hui, on reste en contact sur Facebook et rendez-vous également sur notre site voafrique.com pour l'actualité 24h sur 24. Au revoir.